Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Lieu de concentration des services, des emplois, des établissements scolaires et des établissements de santé, elles attirent un nombre toujours plus important d'habitants d'année en année. D'après les projections de l'ONU, elles comporteront même 2/3 de la population mondiale en 2050. Et oui, vous l'aurez peut-être deviné, mais nous parlons bien des villes. Néanmoins, si le regroupement de certaines commodités est pratique, que ce soit économiquement ou pour les personnes qui y vivent, les villes peuvent aussi malmener notre santé mentale. Pour parler de la fabrique de la ville et de ses effets sur notre santé mentale, nous sommes aujourd'hui accompagnés par Claire Daujard, à distance. Vous êtes architecte et formée en sciences sociales et cognitives appliquées à l'architecture. Vous travaillez dans l'agence City, contraction de Science et City en anglais, qui œuvre pour la prise en compte des dimensions humaines dans les projets urbains. Et d'Emmanuel Gangloff, avec nous en plateau. Vous êtes scénographe et docteur en aménagement du territoire et urbanisme. Vous êtes cofondatrice de l'agence Bien Urbaine et vous vous intéressez plus spécifiquement au lien entre art et aménagement et aux effets des crises dans la fabrique urbaine. Nous aurons aussi une chronique de Lila, bénévole au labo, sur les villes du futur dans deux œuvres de fiction qu'elle a choisies.
Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences ? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
J'en ai fait part en introduction, l'émission du jour porte sur les liens entre la manière dont nos villes sont fabriquées et notre santé mentale. Pour cette émission, on retiendra la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Tout au long de cette émission, il se peut que l'on utilise indifféremment santé mentale, bien-être, voire qualité de vie. Maintenant que l'on a posé cela, on peut se demander quel est le lien entre cela et la fabrique des villes. Peut-être qu'avant d'en parler, Emmanuel et Claire, vous pouvez expliquer vos domaines respectifs d'expertise, que sont l'urbanisme et l'architecture, et comment ils interagissent l'un et l'autre.
Je peux commencer. Moi, je suis plutôt spécialisée en urbanisme. Et du coup, peut-être que par rapport à l'architecture, la question qui change, c'est la question de l'échelle. Nous, on s'intéresse particulièrement à l'échelle des territoires. Donc, on peut travailler sur une ville en particulier, mais ça peut être aussi un ensemble de villes. Et en tout cas, c'est l'échelle sur laquelle on est. Alors, ça peut être la ville, le quartier, les espaces publics. L'urbanisme, c'est essentiellement ça. Et après, je rajoute juste une petite chose, c'est que, bien sûr, quand on parle d'urbanisme, on parle aussi d'espace rural. Donc là, aujourd'hui, le sujet de la thématique est centré sur la ville, mais évidemment aussi qu'on peut aménager le territoire, que ce soit la ville ou les espaces plutôt ruraux.
Et en effet, donc moi, je suis plutôt sur l'échelle architecturale, qui est une échelle plus petite, qui est celle du bâtiment, ou en tout cas d'un ensemble de bâtiments quelquefois qui va s'intégrer au sein justement d'un contexte urbain. Donc là, on va plutôt s'intéresser à l'échelle du bâtiment, des fonctions du bâtiment, de la programmation architecturale, c'est-à-dire de ce qui va se passer dans ce bâtiment.
Super, merci, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de faire la différence entre ces deux disciplines. Emmanuel, vous êtes, on le rappelle, docteur en aménagement du territoire. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama historiquement, quelles ont été les différentes politiques successives concernant la fabrique de la ville ? Autrement posé, comment l'aménagement des villes a été pensé à différents moments de l'histoire ?
Alors, c'est un vaste sujet. Hein. Je crois que l'émission, je ne pourrais pas y répondre dans l'émission totalement. Mais si on se focalise vraiment sur le sujet des liens entre urbanisme et santé, on peut déjà dire que l'urbanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, on va dire que les grandes théories de l'urbanisme sont arrivées au 19e siècle, au moment où on concentre, en fait, il y a une concentration des populations, un phénomène d'urbanisation, on a des centres urbains qui apparaissent. Alors, les villes ont existé de tout temps, hein, mais à l'échelle où on la connaît, voilà, c'est plutôt à ce moment-là. Et ce qu'on peut dire, ben voilà, il y a eu plusieurs courants. Alors, on pourrait en parler des heures, donc c'est pas l'objectif, mais il y a eu notamment un courant qui nous intéresse particulièrement, qui est l'urbanisme fonctionnaliste, où on a décidé, en fait, dans les villes, de l'organiser pour finalement pour des raisons hygiénistes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait des réseaux, un assainissement, on traite un peu les circulations, la manière dont on circule en ville, dont les flux circulent aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui était présent assez, au début de la naissance de l'urbanisme au 19e siècle. Et on peut dire que ces préceptes d'hygiénisme ont été redécouverts avec la crise sanitaire. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un peu, mais en tout cas, tout ce qui était lié entre urbanisme et santé, on en parlait. C'était un sujet hein, parmi plein de thèmes, comme la mobilité, la question du logement en ville, etc. Mais avec la crise sanitaire, on a remis un coup de projecteur là-dessus.
Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on a redécouvertes finalement avec cette crise sanitaire. Effectivement, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Merci. Et Claire, de votre côté, vous êtes architecte spécialisée dans la prise en compte des dimensions cognitives et sociales dans les projets urbains. Est-ce que s'intéresser à la manière, à l'expérience vécue, pardon, des logements et des espaces publics, c'est quelque chose de nouveau dans les domaines de l'architecture ? Et par quel prisme vous abordez la question de la santé dans vos projets ?
Alors oui, c'est une excellente question. Comme Emmanuel vient de le dire, c'est vrai que ce sont des questions qui, quand même, datent de quelques décennies, voire même siècles, puisque les premières études ethnographiques et donc d'observation participante, elles datent un petit peu de 1940, à peu près, avec l'école de Chicago notamment. Et puis, on a une discipline qui s'appelle la psychologie environnementale qui, elle, s'intéresse depuis les années 70 peut-être au stress urbain et aux nuisances urbaines. Donc, c'est quelque chose qui est quand même préexistant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un intérêt grandissant pour l'expérience vécue et notamment avec l'apport des sciences humaines comportementales et cognitives, à travers notamment l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va essayer de mieux comprendre comment ces espaces sont vécus, aussi à travers des parcours urbains, des parcours sensoriels, émotionnels, qui vont nous permettre de vraiment capter l'expérience que les personnes ont des espaces publics ou du coup des espaces à l'intérieur des bâtiments. Donc ça va nous permettre de mieux comprendre quel est l'impact, par exemple, de la surstimulation des villes sur notre santé mentale et de voir que il y a des recherches aujourd'hui qui disent qu'il y a une corrélation quand même entre le fait de vivre dans un espace très dense, dans une ville très dense, avec l'émergence de troubles mentaux. Donc ça, ce sont des choses qui, petit à petit, viennent agrandir cet intérêt pour l'expérience vécue.
Alors, je me permets juste de rebondir sur un aspect que je trouve intéressant. Est-ce que ça veut dire que, historiquement ou de manière traditionnelle, les personnes formées en architecture n'étaient pas forcément outillées en fait, pour bien décrire l'expérience vécue des personnes, des bâtiments, des logements, ce genre de choses ? Et que c'est là où les sciences cognitives et comportementales, de manière générale, les sciences sociales, peuvent apporter quelque chose de plus, si je puis dire, pour être un outil.
Alors oui, absolument, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, bien qu'en école d'architecture, on a des cours de sociologie urbaine, on n'a pas de cours de psychologie environnementale, encore, enfin en tout cas en France, ça arrive au Canada par exemple. Et donc les sciences comportementales appliquées à la ville ou aux espaces urbains et architecturaux, ça c'est sûr que c'est vraiment un nouvel apport qui est très important aujourd'hui.
Et vous, de votre côté?
Je rejoins tout à fait le propos de Claire. C'est quelque chose qui arrive. Et puis, nous, en tout cas, du côté de Bien Urbain, on se pose vraiment ces questions-là de comment outiller, en fait, les différents professionnels de l'urbanisme, notamment, sur ces sujets qui sont émergents et qui se complexifient aussi énormément. Parce que le monde de l'urbanisme est un monde complexe. On a plein d'injonctions différentes sur plein de sujets, la question des transitions, la question de la santé. Enfin, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, apparaît comme éminemment complexe. Donc, l'enjeu aussi, c'est de retrouver des manières de faire, d'outiller les professionnels et surtout aussi de faire en sorte que la parole circule, enfin, que notamment les citoyens soient intégrés à ça, puisque on œuvre pour la fabrique de la ville de demain et il faut tirer tout le monde ensemble pour aller vers des changements. Donc ça, je pense que c'est aussi important.
Et donc là, on en a discuté. Donc Claire, on a dit deux mots. C'est quoi les risques, entre guillemets, qui surviennent quand on habite en ville? Donc on parlait voilà, d'émergence de troubles psychiques qui peuvent être liés au bruit, à la surstimulation sensorielle. Est-ce que vous pourriez développer ce sujet, pardon?
Oui, alors c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites notamment sur le développement des enfants dans des villes qui sont extrêmement denses et plus il y a une corrélation entre le fait que la ville soit de plus en plus dense avec le fait d'avoir la possibilité de développer ces troubles mentaux. Donc il y a différents troubles, en l'occurrence certaines recherches se passent sur la schizophrénie par exemple ou sur la dépression ou aussi sur d'autres troubles mentaux, mais ce qui est mis en avant c'est que en effet la surstimulation de l'espace urbain, que ce soit par le visuel, donc l'ensemble des stimulations visuelles, que ce soit les publicités, le bruit, les luminaires, etc., enfin le bruit lumineux je veux dire, et ce qui fait partie de l'acoustique. Donc, en effet, le bruit, les nuisances sonores sont très impactantes pour certaines personnes, aussi pour les personnes avec des particularités telles que l'hyperacousie, donc des personnes qui vont peut-être percevoir le bruit d'une manière encore plus forte que d'autres. Ça, c'est ce qui fait que la ville peut avoir ou peut être très difficile à s'adapter pour certaines personnes. La densité, c'est aussi quelque chose qui peut être très difficile à vivre pour certaines personnes. Voilà, c'est important de pouvoir aussi comprendre les perceptions de chacun, de tous et toutes, et la perception aussi des personnes qui peuvent avoir des hypersensorialités, on va dire.
Il me semble aussi que pour ajouter une brique là-dessus, il y a même un autre aspect qui est presque paradoxal, c'est que la plupart des personnes, quand on leur demande en fait comment elles expérimentent, comment elles vivent la ville, elles peuvent rapporter en fait un sentiment de solitude, alors que on est entouré. Enfin voilà, c'est assez dense, il y a une population assez importante comparée à des endroits moins denses où les liens sociaux sont plus faciles. En tout cas, c'est plus facile de tisser des liens sociaux. On a souvent cette image de on habite dans un immeuble, mais en fait, on ne connaît pas ses propres voisins et voisines. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous retrouvez, vous, dans vos projets respectifs?
Alors, oui, absolument. C'est vrai que c'est très paradoxal, parce que pourtant, la ville, c'est aussi un lieu où l'ensemble de ces rencontres pourraient être possibles et où on pourrait se dire qu'il y a un capital social fort. Mais en réalité, il peut, dans certains cas, y avoir ce manque de lien social, comme vous le dites, par la densité et par le fait qu'en fait, on ne connaît pas nos voisins et que peut-être aussi, il y a une fatigue sociale dans le sens où on a tellement de personnes autour de nous et il y a peut-être tellement de personnes dans ce bâtiment que c'est difficile de pouvoir se connecter à l'ensemble des personnes. Et donc, il y a ce sentiment de solitude qui va se faire parce qu'on a... on a une difficulté à se lier à l'ensemble des personnes. Donc, plus le bâtiment, entre guillemets, va être petit, et plus ça va permettre de créer ces liens parce qu'on va croiser cette personne plus souvent ou qu'en tout cas, ça va être plus facile de créer des liens. La notion de capital social, c'est quelque chose qu'on étudie en effet beaucoup, car il est très vecteur de santé aussi et de résilience. On a pu le voir aussi durant justement le Covid, où plus les personnes étaient en lien avec d'autres et avaient ce capital social autour d'eux, et plus c'était, plus ils ont été résilients face à la crise.
Sur ce sujet, nous, enfin, du coup, on n'a pas fait d'études particulières là-dessus, donc c'est pour ça que je laissais répondre Claire sur ce sujet précisément. Après, nous, on a fait un gros travail sur la crise sanitaire et les effets que la crise sanitaire a fait, notamment dans la fabrique de la ville. Et on explique, on s'est basé sur un consortium d'études en fait qui ont été présents et on a vu qu'il y a eu à différents moments de la crise des choses qui ont été révélées. Par exemple, souvenez-vous, alors c'est un mauvais souvenir peut-être, mais tout premier confinement, les habitants des villes n'avaient plus accès aux parcs et jardins. Et en fait, là, on s'est rendu compte que c'était la double peine d'habiter par exemple dans un logement exigu et de pas avoir de balcon ou un parc à proximité dans lequel on pouvait aller. Et donc on s'est rendu compte à ce moment-là, et donc les études le montrent, qu'il y a vraiment un effet de corrélation aussi entre urbanisme et santé, mais aussi avec cet accès vital à la nature, quoi, de se dire que finalement la santé, bien sûr, les conditions d'habitation sont importantes, le logement, les interactions sociales, mais il y a aussi comment finalement on peut se mouvoir et avoir accès à des espaces tels que des espaces naturels. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Nous, on a vraiment vu ça et on a vu aussi, pour rebondir là-dessus aussi, sur ces liens entre urbanisme et santé au sein de la ville. On a vu qu'avec la crise sanitaire, le débat s'est réouvert. C'est-à-dire qu'avant, quand on envisageait la question de l'urbanisme et de la santé, on l'envisageait beaucoup sous l'angle, alors pas uniquement, hein, parce qu'il y a des chercheurs qui ont amorcé déjà des choses comme Philippe Clergeau sur des liens plus globaux, mais on le voyait beaucoup sur la question de l'offre de santé. Comment finalement on irrigue un territoire, on a une offre de santé, tout le monde a accès aux soins. Et avec la crise, il y a eu un certain nombre de chercheurs qui se sont mobilisés sur finalement la santé. En fait, la santé, c'est quelque chose de plus large, c'est la question de la santé globale. Et que pour une meilleure santé en ville, il faut avoir donc un accès à la nature, en effet, mais aussi il faut se repenser les liens avec la nature, les liens entre les humains et les animaux, les liens avec la biodiversité, etc., etc. Et donc pour penser la ville avec finalement dans un écosystème bien plus global et peut-être pas uniquement centré sur les humains.
Et donc finalement, en fait, les différentes politiques qui ont été mises en œuvre historiquement, j'ai envie de dire, depuis là le 19e siècle, on parlait de ça tout à l'heure au début de l'émission, avec un raisonnement plutôt hygiéniste, elles ont fait fi, si je puis dire, de ces dimensions-là. Parce qu'en fait, je me pose la question de pourquoi on a dû attendre la crise pour s'en rendre compte. Est-ce qu'on s'en rendait compte avant ou pas? Et du coup, oui, de mon point de vue, de ce que je comprends, c'est que oui, ces dimensions-là ont été peut-être mises de côté pour diverses raisons, j'imagine. Et en fait, c'est ce qui a abouti à l'état actuel des villes et ce qui a abouti au fait que toutes ces dimensions-là qu'on vient de parler se sont révélées. Vraiment, la crise a agi comme un catalyseur, en fait, pour révéler tout ça et qu'on se rende compte qu'il nous manquait ce lien-là dans les villes.
Oui, alors c'est un peu ça, bien sûr, c'est multifactoriel, hein. Il y a plein d'autres facteurs qui expliquent ça, mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que quand les villes ont été vraiment, elles ont grandi en tout cas, ces préceptes d'hygiénisme, c'était pour éloigner les maladies en fait. C'était aussi pour faire en sorte que la population n'ait pas, il y avait des grandes épidémies, faire en sorte d'aseptiser la ville, de l'aérer, de faire pour que les gens ne soient pas malades. On éloignait d'ailleurs les malades très très loin. C'était parce qu'il y avait une concentration de population, donc il fallait trouver des moyens d'aseptiser en effet la ville. Donc ça a conduit en effet à éloigner finalement la nature à certains endroits des villes, évidemment. Avant la crise, en fait, peut-être qu'on a toujours eu connaissance du fait que c'était important qu'il y ait un lien entre la nature et la ville, si on peut dire ça comme ça. Mais comme on a été coupé de cet accès-là, en fait, c'est devenu très important. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est arrivée, c'est que quand il y a eu toute cette période où les villes, on ne pouvait plus circuler, etc., on a vu plein d'images se déployer des animaux qui reviennent en ville. Et c'était un peu, les animaux sont déconfinés, eux, ils ont un retour, enfin c'est le retour de la nature, ils peuvent mieux se déplacer, et nous, on est dans nos logements. Et donc ça, c'était intéressant aussi, parce que ça montrait aussi qu'on se disait, comment on peut cohabiter avec ces populations. Et puis encore une fois, mais bon, c'est un peu ancien, mais rappelez-vous, on croyait que c'était, que le pangolin était, il y avait le grand débat sur les zoonoses, donc les maladies qui sont transmises via les animaux, notamment. Et donc c'était le grand débat pour savoir qui l'a amené, comment. Et on s'est rendu compte, et il y a plusieurs chercheurs, notamment bien plus spécialistes sur les questions de biodiversité ou des écologues aussi, qui montrent aussi que plus il y a une biodiversité, moins il y a le développement de ce type de problème. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre les humains et la faune et la flore, la nature.
Mais c'est vrai que le Covid, ça a aussi montré pas mal de... Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites suite au Covid pour mettre en avant l'expérience que les personnes ont vécue au sein de leur logement, par exemple. Et donc, ça a vraiment mis en avant aussi l'importance d'une bonne qualité de logement, que ce soit dans la surface, parce que bien sûr, beaucoup ont souffert du manque de surface de leur logement, mais aussi dans la qualité de ce logement. Donc ça, c'est hyper intéressant de se dire qu'il y a eu tout un pan de recherche qui s'est intéressé à ça et qui s'est aussi intéressé en effet au manque de lien social avec l'extérieur, avec le fait qu'on ne pouvait plus justement aller dans ces lieux de rencontre qui sont les lieux d'espace naturel, qui sont les lieux et les services qui constituent la ville. Et ça a mis en valeur beaucoup de choses qui aujourd'hui nous permettent de se rendre compte de l'importance de prendre en compte que ce soit la qualité du logement ou la qualité de nos espaces publics et de comment est-ce qu'on crée cette ville. Une idée qui est apparue aussi, c'est celle de la ville du quart d'heure qui permet d'avoir autour de chez nous l'ensemble des services nécessaires, que ce soit à notre bien-être social, à notre bien-être psychologique et à notre santé physique avec donc les services de santé dont on parlait, mais pas que aussi l'ensemble des besoins qu'on peut avoir de vivre bien dans notre ville et dans notre quartier et autour de chez nous sans nécessairement avoir besoin de se déplacer avec les transports publics, par exemple.
Merci pour ce tour d'horizon. On voit bien comment la manière dont les villes peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Évidemment, ce constat n'est pas définitif. Des changements s'opèrent à différentes échelles et des solutions existent pour préserver notre santé mentale tout en habitant en ville. On en parle avec nos invités juste après une courte pause musicale. On écoute The Sorcerers, Exit Athens.
savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
Nous venons d'écouter Exit Athens de The Sorcerers. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Emmanuel Gangloff et Claire Daujard pour parler de Fabrique de la Ville et de santé mentale. Nous avons dernièrement traversé une crise sanitaire, on l'a évoqué dans la première partie de cette émission, qui a amplifié et accéléré les tendances de déménagement à l'œuvre avant la crise. Une étude récente de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, publiée en février 2023, note que les personnes qui changent de lieu de vie sont motivées par, je cite, « le désir de vivre à la campagne, le rejet du mode de vie urbain, emploi de bureau, cadre de vie exigu, et la recherche d'un logement plus vaste, d'un extérieur, balcon, jardin ou d'une maison ». C'est assez peu étonnant compte tenu de ce qu'on a abordé en première partie. Pendant les confinements, il a fallu vivre dans un espace qui est peut-être convenable quand on n'y est pas toute la journée, mais qui devient trop juste quand on y passe toute la journée. Il a fallu cohabiter davantage avec son voisinage, peut-être que l'entendre beaucoup plus que d'habitude, et selon notre lieu d'habitation, c'était pas forcément évident d'être surstimulé sensoriellement, comme on l'a pu l'évoquer. Et enfin, le kilomètre accordé pour sortir ne permettait pas d'atteindre pour tout le monde des espaces verts pour se ressourcer. Une question pour toutes les deux. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un changement depuis la fin, si je puis dire, la fin de la crise, dans l'intégration de ces dimensions de santé mentale, de bien-être, de qualité de vie dans les projets urbains?
Alors, vaste question. Et puis, je ne sais pas si on a encore... En fait, finalement, on sort de la crise sanitaire, enfin, ça fait pas si longtemps, et l'échelle du temps pour l'urbanisme est beaucoup plus longue. On va dire qu'il y a des projets qui ont déjà été amorcés bien avant la crise sanitaire et donc qui sont livrés aujourd'hui. Donc les changements, finalement, on peut les voir apparaître, mais ils vont apparaître un peu plus tard, peut-être. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça a remis le sujet sur la table. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que la fabrique de la ville soit complètement différente au sortir de la crise, mais juste après, on s'est pris d'autres crises. Et ce n'est pas si évident que ça de changer la matrice, le logiciel, pour intégrer toutes ces nouvelles dimensions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je trouve que c'est au moins, ça le mérite, enfin, depuis ce moment-là, il y a débat, on se réinterroge. En fait, il y a un certain nombre de dogmes, si on peut dire, qui étaient qui faisaient consensus avant la crise, qui aujourd'hui parfois sont débattus. La place de la biodiversité, la question de l'artificialisation des sols, c'est des sujets en fait qui reviennent avec force aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important.
Sur un autre pan qui est plutôt suivi encore une fois de l'expérience vécue, on voit bien que il y a eu donc en effet des recherches qui ont mis en avant l'impact que ça avait de rester enfermé chez soi et aussi l'impact de ne pas pouvoir sortir, que ce soit avoir le contact avec les espaces naturels, mais aussi avec les autres, hein, comme on le disait. Mais ça a aussi permis aux habitants eux-mêmes de prendre compte de l'importance de leur logement et de comment l'aménager et de peut-être avoir un logement qui leur plaît ou qui soit confortable. Et ça, il y a eu des changements, je pense, peut-être même à l'échelle très personnelle, qui a été une envie de mieux prendre soin de son logement ou peut-être une envie aussi d'en partir, du coup, de partir à la campagne ou en tout cas dans des espaces plus grands avec un espace vert. Et donc, c'est vrai qu'à cette échelle-là, on peut voir des changements déjà et puis on peut voir des changements aussi dans la manière dont on va fabriquer les logements aujourd'hui. Il y a la prise en compte de ça puisque c'est une demande des acquéreurs aujourd'hui que d'avoir un logement qui leur convient et qui contribue à leur bien-être. Aussi parce qu'on peut considérer le logement comme un espace de refuge pour une ville qui est peut-être trop surstimulante et dans laquelle on va avoir tout un tas de stimulations. Le logement, c'est vraiment le lieu où finalement on a envie de se retrouver, d'être bien. Et donc, cette notion d'intimité, par exemple, avec une bonne isolation acoustique, c'est très important. Et c'est des choses qui, oui, sont prises en compte quand même de plus en plus dans les projets aujourd'hui.
J'ai une question naïve. C'est en entendant Emmanuel parler du temps long qui est forcément nécessaire dans la conception des villes. Est-ce que c'est impossible, du coup, de revenir en arrière ou de mettre en pause, on va dire, des projets qui avaient déjà été décidés avant la crise, mais qui peuvent être réinterprétés à la lumière des dimensions qui sont ressorties?
Enfin, c'est... Alors, c'est jamais impossible, évidemment. Après, il y a plein de problématiques à prendre en compte. La plupart du temps, c'est des projets qui ont été financés, enfin, dont le financement a été voté. C'est des projets qui sont vraiment sur le temps long. Donc, sur les opérations qui sont livrées aujourd'hui, c'est plutôt des ajustements qui ont été faits ou des manières de changer, de faire évoluer un peu les propositions. À Nantes, on a quelques projets urbains en fait où on voit bien qu'il y a eu des tendances et des changements qui ont été amorcés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis c'est aussi pour les projets d'avenir. C'est ceux qui sont en train d'être faits. On voit bien qu'il y a une évolution aussi dans comment on pense les projets pour demain. En effet, sur toute la question des logements et de finalement des quartiers, on voit bien qu'il y a des tendances à l'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui revient et sur lequel, les urbanistes et les acteurs de la ville ont plus de prise aujourd'hui. Mais c'est des projets qui vont arriver dans quelques années. Donc, sur les projets passés, on peut ajuster ou alors décider de plus faire certains projets. Ça, c'est possible aussi, mais généralement, ça correspond aussi à des besoins. Donc, c'est comment quand même répondre à ces besoins-là, parce que rien faire du tout, c'est peut-être pas forcément une solution non plus. Et puis, comment ajuster le tir tout en sachant qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte et à l'avenir... Il y a des tendances et des inflexions qui arrivent. Après, le contexte de la fabrique de la ville aujourd'hui, c'est aussi multicrise. Enfin, on a la crise sanitaire, mais après, on a eu les questions des crises écologiques, la question de la crise aussi énergétique avec la guerre en Ukraine. Donc, c'est multicontextuel, multifactoriel. Donc, il y a des envies, ça c'est clair, il y a une envie. Mais comment on peut le traduire concrètement, c'est pas toujours simple.
Et du coup, pour revenir sur l'échelle au niveau personnel, prendre soin de son logement, comment les habitants et les habitantes ont pu se manifester en fait pour tout simplement faire part de leur mécontentement, si je puis dire. Est-ce que c'est facile entre guillemets pour des personnes peut-être locataires d'ailleurs de métamorphoser leur logement pour répondre à certaines dimensions d'isolation en termes acoustiques, ce genre de choses? Une idée là-dessus?
C'est vrai qu'il y a des inégalités sur cette question, c'est une certitude. Quand on est locataire, on ne peut pas aménager son logement comme on le souhaite. Et même si c'est le cas, on pourrait. C'est un coût qui n'est pas facile pour les locataires. Donc c'est vrai que c'était plutôt les personnes qui étaient propriétaires qui ont eu cette chance, on va dire, de pouvoir réorganiser, réaménager, penser peut-être à aussi... c'est les personnes qui avaient des jardins, se sont beaucoup intéressées à l'idée de jardiner, etc., qui sont d'ailleurs des activités qui sont très, très propices à une bonne santé mentale. Pour les locataires, il y a quand même certains retours qui ont été faits de personnes qui ont choisi de réaménager, tant pis, leur logement comme ils le souhaitaient. Je ne sais pas s'il est si facile que ça de faire des retours auprès des propriétaires. Après, je sais que dans les projets de promotion, par exemple, il y a quand même aussi des groupes d'utilisateurs où ils peuvent faire remonter des informations auprès aussi des agents et d'un service client finalement, où ils vont prendre en compte les retours qu'ils font sur notamment tout ce qui va être technique, donc la thermique, l'acoustique, etc., pour voir comment est-ce que ça peut être amélioré aussi pour de futures opérations. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi, je pense, de plus en plus prises en compte, même par les promoteurs dans leur projet.
Et il y a un élément aussi, pour rebondir sur cette question, c'est aussi la question des communs qui s'est posée dans les logements. En fait, avoir accès aussi, quand on habite dans un immeuble, à une salle en commun, un espace en commun. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi pendant, en tout cas, la crise sanitaire et qui perdure. C'est comment, en fait, on avait tendance, je catégorise un peu, mais à limiter, en fait, ces espaces qui sont communs, puisqu'en fait, ça génère des coûts. Et donc, avec la crise aussi, il y a une attention nouvelle par les habitants sur, au-delà de mon logement, qu'est-ce que mon immeuble peut m'offrir comme service.
Un autre sujet, donc là on part sur la ville de demain. Donc selon Christine Lecomte, qui est présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, 80% de la ville de demain est déjà là. Donc si on part de ce postulat, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer nos villes et nos logements? Donc on en a un peu discuté. Il y a quelque chose qu'on a mentionné dans la première partie, c'était ce concept de ville du quart d'heure. Donc c'est un concept popularisé ces dernières années par Carlos Moreno, un urbaniste franco-colombien, qui propose une organisation urbaine permettant à tout habitant et habitante d'accéder à ses besoins essentiels de vie en 15 minutes de marche ou de vélo à partir de son domicile. Est-ce que c'est de l'ordre de l'utopie ou est-ce que ça peut vraiment exister? Est-ce que vous avez des exemples de villes qui sont conçues à peu près sur ce concept-là?
Ce qu'on peut se dire, en fait, finalement, par rapport au concept de Carlos Moreno et de la ville du quart d'heure, c'est peut-être que c'est venu réinterroger la question des proximités, de la proximité des services. Peu importe là où on vit, qu'est-ce qui est à proximité? Donc ça, c'est un élément important. Alors c'est quelque chose qui a toujours été plus ou moins là, mais en tout cas, ça remet un coup de projecteur dessus. Moi, ça me pose question sur deux choses. À la fois, c'est hyper intéressant de voir quel service on peut prétendre, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais quand autour de chez nous, quoi, à proximité de chez nous, donc dans les grands centres urbains. Mais ça pose aussi la question de, finalement, comment les gens se rencontrent et au-delà de ce cercle, comment on vient aussi aller d'un endroit à un autre. Donc, le corollaire de ça, en tout cas, il y a une forme de paradoxe entre tout vouloir à proximité de chez soi et profiter de la ville comme espace de rencontre avec des gens qui viennent de plus loin. Donc ça, c'était c'est une interrogation que j'ai. Et puis, la question aussi de cette gestion des proximités dans des espaces qui ne sont pas des villes, ou en tout cas des petites communes dans les campagnes. Enfin, voilà. Comment on peut aussi se poser la question des proximités sur ces territoires? Et là, moi, je trouve que c'est hyper pertinent aussi de se poser ces questions-là à ces endroits-là, parce que finalement, en ville, la question n'est pas si difficile que ça. Dans certains quartiers qui sont enclavés, oui, c'est le cas, c'est une vraie problématique. Mais dans le périurbain, dans les campagnes, comment on repose aussi ces questions-là? Et donc, moi, je trouve que ça a le mérite de mettre sur le sujet ça, sur la table ce sujet-là, la question des proximités pour tous les habitants de tous les territoires.
Mais ce qui peut être intéressant à l'échelle de la ville, c'est la mutualisation des fonctions de certains espaces. On parle aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces espaces qui sont utilisés finalement que à des temps très précis, comme l'école qui va être utilisée chaque jour de la semaine, mais pas le week-end. Et comment est-ce que ces cours d'école pourraient être aussi réutilisés d'autres manières? Et ça, c'est très intéressant de se poser ces questions-là, je pense. Et la ville du quart d'heure peut-être fait poser ces questions aussi. Donc,
ce serait hyper intéressant de voir effectivement comment ces différents lieux peuvent être utilisés, habités, enfin une cour d'école ou une école de manière générale le week-end. Est-ce que ça peut être mis à disposition des habitants, des habitantes s'ils veulent organiser une fête de quartier ou une projection de cinéma, que sais-je, différentes choses. C'est vrai que j'y avais jamais pensé personnellement. Je trouve que c'est une idée hyper intéressante. Et la deuxième chose dont on avait pu discuter, c'est tout ce qui est restauration des espaces de restauration cognitive dans les villes, notamment avec les espaces verts. Je crois que c'est vous, Claire, qui pourrez le mieux en parler peut-être.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a déjà évoqué à quel point la biodiversité et les espaces verts sont importants. C'est vrai qu'il y a des recherches, notamment en psychologie environnementale, qui datent maintenant bien des années 80, qui démontrent l'aspect restaurateur pour nos ressources cognitives des espaces verts. C'est-à-dire que quand on va dans un espace vert, on va se ressourcer au point où les études montrent que si on a une tâche cognitive à faire avant, par exemple, on a une tâche cognitive à faire. Après, on va proposer aux personnes de soit regarder une vidéo avec des espaces verts et avec des bruits associés à la nature, soit une vidéo qui sera neutre, soit une vidéo qui sera les bruits de la ville. Et on voit bien que la même tâche cognitive qui sera faite donc après ces courts temps de vidéo ne sont pas réussies de la même manière par les participants. suite à l'immersion dans un espace vert, on va dire, ou une vidéo neutre, ou bien l'immersion dans des espaces qui sont peut-être surstimulants comme ceux de la ville. Et donc, c'est là où on voit qu'en effet, il y a vraiment une amélioration de cette, voilà, de la ressource cognitive quand on est dans des espaces verts. Et ça, c'est très important de le prendre en compte dans la ville et de se dire peut-être que ce qu'on peut faire, parce que la ville, on ne peut pas la changer entièrement, hein, comme on voit, il y a 80% du bâti qui est déjà existant de toute façon, mais c'est se dire comment est-ce qu'on peut apporter ces espaces ressources comme des petites bulles au sein de la ville qui peuvent au moins permettre d'avoir ces temps de ressourcement, en fait.
Avant la pause musicale, j'évoquais le fait que le secteur de l'aménagement urbain allait être contraint, notamment par l'application de la loi Climat et Résilience de 2021. La France s'est donné l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols, ZAN pour les intimes, en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030. On sait qu'il y a toujours une différence entre l'existence d'une loi et son application, mais là, a priori, pas d'autre choix que de densifier les habitats. Emmanuelle, vous êtes enseignante au Japon, entre autres casquettes. Là-bas, la densité des villes n'a rien à voir avec celle que l'on connaît ici en France. Comment est vécue cette densité au Japon ?
Alors, en effet, hein, la question, enfin, je trouve que ce qui est intéressant aussi pour nous en Europe, c'est de voir un peu comment on fait les choses différemment dans d'autres pays. Et donc, j'ai l'occasion d'aller au Japon chaque année pour donner des cours et enseigner. Et en fait, j'observe des situations là-bas qui sont très différentes de chez nous, notamment parce que il y a des villes qui sont très grandes, des mégalopoles, Tokyo, une ville immense, avec une densité de population très importante, qui n'a rien à voir avec chez nous, finalement, et une organisation urbaine qui fonctionne quand même. Alors, c'est assez surprenant. Alors, sans doute, c'est lié à des modes de vie, etc., une habitude qui a été prise depuis longtemps. Mais ce qui m'impressionnait par rapport à notre sujet, c'est que finalement, il y a une forme de densité dans l'habitation, dans les logements, avec des grandes tours. On monte énormément dans la verticalité dans les villes. Et en même temps, l'accès à des zones préservées de nature. On voit que la limite entre ville et nature est beaucoup plus nette, ce qui fait que quand on sort d'une zone urbanisée, on peut avoir accès à la nature à certains endroits, et qu'il y a une forme de privilège aussi d'accéder dans des espaces magnifiques autour des villes. Enfin voilà, il y a ce côté-là qui est intéressant et qui, moi, me pose beaucoup de questions par rapport à nous et l'organisation du territoire, notamment en France, où on a des continuités de zones urbaines sur plein d'endroits. Donc moi, ça me pose beaucoup de questions là-dessus. Et puis aussi sur la fonction des parcs, des grands parcs qu'il peut y avoir en ville, des différents espaces qui sont présents, les parcs et jardins, voilà, comment les gens les utilisent aussi et comment ça répond à des fonctions qui ne sont pas forcément les logements.
Alors Claire, je ne sais pas si vous avez pu observer dans votre expérience d'autres villes, d'autres manières de faire, d'autres densités, et comment c'est vécu par les habitants et les habitantes.
C'est extrêmement intéressant ce que vient de dire Emmanuel, parce que c'est vrai que on va avoir le fait de pouvoir avoir accès directement à des espaces verts qui sont réellement des espaces naturels, ou en tout cas peut-être un peu plus naturels que certains espaces qu'on peut avoir dans les villes, qui reste que la biodiversité de ces espaces sont réduites. Néanmoins, il y a beaucoup de recherches qui démontrent aussi, hein, de psychologie environnementale, ou en tout cas de sciences cognitives, qui démontrent l'impact que la densité a sur notre bien-être et notre santé mentale, et notamment les tours. C'est-à-dire que les espaces qui sont extrêmement denses, avec des hauteurs de bâtiments qui sont très hautes, sont en général bien moins vécus, beaucoup moins bien vécus par les habitants et habitantes, parce que ça peut générer aussi de la peur, de l'anxiété, du stress. Et aussi un manque de confiance envers l'autre, parce que, encore une fois, il y a tellement plus de personnes qu'il y a cette... voilà, ce manque de confiance qui va apparaître, il y a le lien avec l'autre qui va se dissoudre un petit peu. Enfin, voilà, donc c'est vrai que la densité, elle a quand même un impact important. Donc, les petites villes, enfin, de nos plus petites villes, on va dire, sont extrêmement intéressantes à vivre en tant qu'habitant-habitante, mais c'est vrai que pour la biodiversité, c'est plus problématique. C'est un débat qui est intéressant à avoir. Mais on peut voir aussi qu'il y a d'autres manières peut-être de construire où on ne parle pas de faire une densité avec des tours tout de suite, mais juste de redensifier, d'avoir moins de pavillons, mais d'avoir plus d'habitats partagés de petites hauteurs ou qui se rapprochent d'une manière de construire pavillonnaire, hein, des espaces mitoyens, par exemple, de l'habitat partagé avec une communauté qui se crée à l'intérieur, etc. Ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut développer un équilibre entre les deux, j'ai l'impression.
Et donc, pour mieux se projeter dans la ville du futur, on peut regarder ce qui est fait dans des villes plus denses ailleurs qu'en France, mais on peut aussi peut-être voir pour s'inspirer des œuvres de fiction. Lila, bénévole au labo, s'est prêtée au jeu de l'analyse de quelques œuvres, c'est bien ça ?
Tout effectivement. Vous commencez à me connaître, mon truc c'est le ciné et la SF. Alors quand on m'a parlé d'urbanisme et de santé mentale, c'était une occasion pour moi de se pencher sur comment voit-on les villes et les infrastructures du futur dans les œuvres de SF. Est-ce qu'il y a des points communs ou des différences notables ? Certaines villes sont-elles adaptées pour prendre soin de notre santé mentale ? Eh bien on va voir ça tout de suite. Pour cette chronique, j'ai choisi deux exemples. Le Chicago de 2035 de iRobot et le Las Vegas de 2049 de Blade Runner 2049. Alors on va commencer par les points positifs. Un point commun que j'ai constaté dans ces villes, c'est l'accessibilité et le confort. Dans le futur, la vie est plus facile car les corvées sont prises en charge et des industries entières sont consacrées à l'unique but d'alléger l'effort des humains. Je pense notamment aux androïdes iRobot, de véritables majordomes mécaniques, construits pour répondre à presque tous les besoins. Plus besoin donc de faire ses courses ou de faire le ménage, un robot tout équipé le fait pour vous. On peut le voir dans le film iRobot, ça ne se limite pas aux androïdes, on trouve aussi l'intelligence artificielle Viki, qui gère la sécurité, le traitement des données, le recensement de la population, à peu près tout donc. C'est un poids qui s'enlève des épaules humaines, confie les tâches pénibles, ingrates ou difficiles aux IA, ça pourrait très bien mener à enlever une charge de stress et donc quelque part à améliorer notre santé mentale. Même dans le transport, tout est simplifié. Les voitures autonomes de iRobot se construisent toutes seules. Les vaisseaux volants de Blade Runner 2049 sont accessibles à tous. Dans tous ces médias, les trucs chiants sont soit pris en charge par des robots, soit simplifiés d'une manière ou d'une autre. Dans ces villes du futur, l'intelligence artificielle est devenue notre allié et est utilisée dans le paysage urbain. Autre chose sympa, c'est les infrastructures de médecine. Dale Spooner, le héros de iRobot, a le bras droit et une grosse partie du poumon reconstitué artificiellement après un accident de voiture sans que ça laisse de cicatrices ou de séquelles physiques graves. L'existence d'infrastructures de médecine aussi efficaces pourrait très clairement améliorer notre santé mentale également. Dernier point positif que j'ai trouvé, d'un point de vue strictement urbain, les villes citées sont des villes qui se sont révolutionnées en matière d'énergie. L'une des solutions serait de chercher les ressources ailleurs que sur Terre, comme dans Blade Runner, où la plupart de la population humaine a migré sur Mars et relâche ses ressources sur Terre. L'autre solution, c'est de rester sur place, mais de développer sa technologie et de l'inclure dans l'urbanisme à fond, comme dans iRobot, où les IA gèrent les ressources. Maintenant, moins sympa, on va parler des points négatifs. J'ai parlé du fait que tout était automatisé, plus accessible, plus simple. J'ai parlé de médecine, de ressources, mais là, on va parler de justice sociale. Vous le savez peut-être, mais la disparité entre les classes sociales, ça se distingue dans l'urbanisme d'une ville. Et une trop grande disparité, ça n'améliore pas du tout la santé mentale. iRobot et Blade Runner ont le même concept de séparation. Les plus riches ont droit aux meilleures infrastructures, tandis que les plus pauvres n'ont pas ou peu accès aux mêmes services. Dans Blade Runner, Las Vegas a un concept de robots esclaves nommés les réplicants, construits par bio-ingénierie, semblables en tout point aux humains, possédant des émotions et sentiments humains et pourtant relégués au rang de sous-personnes. Et même parmi les humains, il existe une séparation assez notable entre les élites et la population. Dans iRobot, certains androïdes sont beaucoup trop chers pour une partie de la population. On voit la différence d'urbanisme quand on quitte les quartiers scientifiques et aisés, avec des maisons et des apparts de banlieue beaucoup plus semblables à ce qu'on a aujourd'hui, tandis que le centre-ville est tout automatisé. Autre point négatif, les infrastructures de santé mentale sont présentes, mais pas d'évolution quant à la prise en charge efficace des troubles psychologiques des héros. Le syndrome post-traumatique de Dell dans iRobot est à peine pris en charge, la souffrance des réplicants sont ignorées dans Blade Runner du fait de leur statut d'esclave, et les humains de Blade Runner sont quant à eux livrés à eux-mêmes et se perdent dans les plaisirs du jeu et du sexe proposés par le futur Las Vegas. On pourrait penser que puisque la santé physique est mieux prise en charge, la santé mentale le serait aussi, mais bien pas dans ces villes. Globalement, les exemples donnés donnent une vision un peu angoissante du futur, avec un confort et une plus grande facilité à accéder à certains services, certes, mais où la santé mentale est un peu mise de côté. Les plaisirs sont parfois offerts comme une forme de distraction aux problèmes sociaux, le Las Vegas de 2049 restant Las Vegas. Personnellement, je pense que tout n'est pas perdu. Il faut rester optimiste et se rappeler que tout ça, c'est de la fiction. Alors pour éviter de finir comme dans Blade Runner, on se bouge et on vote à gauche.
Merci Lila pour ce travail très stimulant. Quant à vous, Emmanuel et Claire, que pensez-vous des représentations des villes dans la culture populaire ? Est-ce que vous avez l'impression que les œuvres de fiction donnent des alternatives crédibles concernant les villes du futur ?
On a une vision, en tout cas celle qu'on peut voir le plus souvent, ce sont des bâtiments qui sont en effet assez souvent de très haute hauteur avec beaucoup de verdure, qui sont assez organiques. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on veut retourner vers des formes beaucoup plus organiques, beaucoup plus rondes, beaucoup plus inspirées de la nature. Il y a cette idée aussi du biomorphisme qui est hyper intéressante, où on va s'intéresser à comment l'écosystème naturel fonctionne et comment est-ce qu'on peut le copier ou en tout cas s'en inspirer pour nos bâtiments. Donc on a un peu cette image, voilà, des très grandes villes avec des bâtiments tout en verdure et puis voilà. Tout ça c'est hyper intéressant, mais c'est très complexe parce que déjà dans la logistique, maintenir un bâtiment avec beaucoup de verdure autour, c'est finalement très difficile. La thermique ou la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments n'est pas si facile non plus, avec une humidité qui serait éventuellement forte. Bon, voilà. Et à côté de ça, on voit aussi que ça crée, en tout cas dans les images qu'on voit, une certaine homogénéisation de ce parc urbain ou des images qu'on va, voilà, de l'image qu'on renvoie des bâtiments, alors que il y a quand même une très grande richesse aujourd'hui dans les matériaux qu'on peut utiliser, qui seraient des matériaux, on pourrait utiliser des matériaux naturels comme la brique, la pierre, le bois, qui crée aussi une diversité et puis une richesse visuelle qui est positive finalement. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez dystopique dans la manière dont on peut voir aujourd'hui, dans les films, la manière de créer les villes. Je suis pas sûre que ce soit la plus positive à terme pour notre santé et notre bien-être. Mais je laisse Emmanuel.
Oui, je partage le constat. Après, ce que je trouve intéressant dans la fiction aussi, c'est la capacité qu'a un récit d'impliquer un certain nombre de personnes. C'est-à-dire pour faire évoluer les représentations et les changements. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est par exemple d'établir des scénarios fictionnels pour préparer au changement. Par exemple, il y a des recherches qui ont été faites à Tours sur le risque d'inondation avec des artistes et un spectacle qui pose la question des inondations, comment vivre l'inondation, comment faire et prévenir de ce risque d'inondation. Donc moi je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire de quand on a des scénarios un peu catastrophiques où j'avais travaillé avec des étudiants sur un territoire sous une pluie acide, qu'est-ce qui se passe, comment se réinvente la ville, comment en BD on peut dessiner une ville avec des nouvelles fonctions, etc. Donc finalement la fiction, elle permet aussi des imaginaires et permet de penser que peut-être dans le futur, on va devoir vivre complètement différemment. En tout cas, il va falloir qu'on s'adapte. Et de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant. C'est vrai que pour l'instant, les représentations globalement des villes qu'on peut se faire dans la science-fiction, en effet, le risque, comme tu le disais, Claire, c'est une forme d'uniformisation. Donc, il faut peut-être lutter contre et aller vraiment dans une scénarisation des nouveaux imaginaires pour ouvrir le champ des possibles, quoi.
Merci à Claire Dojard et Emmanuel Gangloff pour ces échanges précieux. Merci également à Lila pour sa chronique. Merci enfin à Dounia Saez pour la réalisation de l'émission. C'était une émission préparée et animée par Julie et Merlin. Vous pourrez la retrouver sur vos applications de podcast préférées. Retrouvez-nous sur labodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux. Si le journalisme scientifique vous intéresse, nous sommes à la recherche de bénévoles, alors n'hésitez pas à nous contacter. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
FM. You had to say.